Père Seigneur, c'est dans le nom de ton Fils Jésus qu'on vient te remercier pour le temps qu'on a eu ce matin dans la louange, Seigneur, puis dans le partage du pain et du vin. Seigneur, ça nous rappelle qu'on est participants de ton corps qui a été brisé, puis ton sang qui a été versé à la croix, pour nous racheter, Seigneur, puis on fait partie de ton corps, d'un seul pain, d'un seul corps, qui est ton Église. Puis je te remercie de ce que tu veux faire pour nous solidifier en tant qu'Église. Nous remettons nos vies entre tes mains, puis parle à nos cœurs par ta parole, par le message qu'on a ce matin dans le nom de Jésus. Amen. On continue la petite étude, la série d'études sur qu'on est préparé pour la guerre. Nous sommes pas des n'importe qui. On est des enfants de Dieu. On est enroulé dans l'armée du Seigneur. Parce que c'est l'Éternel des armées. Il y en a plus qu'une armée, mais l'armée terrestre, c'est son corps, c'est son Église, c'est ses soldats, c'est les combattants dans ce monde. On a vu là-dedans, dans la série, on a vu que pourquoi on est enroulé dans cette armée-là pour combattre, puis ainsi de suite. On a vu quels sont nos combats. On a vu quels sont nos alliés. Quels sont nos ennemis. Là, on va commencer peut-être 7-8 messages qui vont s'ajouter à la suite de ce message-là. Je pense que j'ai à peu près ça. On va voir l'arsenal du chrétien. Les armes et la puissance de Dieu à notre disposition sont là. C'est donné. Tout est accompli. Tout est fait. Mais c'est à nous à saisir ces armes-là pour pouvoir en être équipés puis marcher dans les armes de Dieu, dans la puissance de Dieu, pour vivre ce que Dieu nous appelle à vivre. Parce que tout est là pour qu'on s'en serve, pour qu'on vive des choses extraordinaires. Chaque fois qu'un miracle qui se produit, un exaucement de prière, c'est une bénédiction, puis on est heureux. Demandez à quelqu'un qui avait mal, puis qui a reçu une guérison, puis qui a plus mal. Mandez-y si ça lui fait du bien. Mandez-y si il est content d'être guéri. Mais ça, c'est un exemple. Il y a plein d'affaires que Dieu veut intervenir dans notre vie, puis il veut nous fortifier. Puis le fait qu'on en parle, c'est parce qu'il veut nous rappeler ces choses, voyez-vous? Le problème qu'on a, c'est qu'on est des auditeurs oublieux. On oublie tout ce qu'il a mis là. Puis il y en a un qui travaille pour nous faire oublier, savez-vous c'est qui? C'est le diable. Il vient enlever, c'est un oiseau qui vient enlever ce qui a été donné. Il vient nous voler. On oublie. Parce que si on n'oubliera rien de ce qui est écrit, on sera tous déjà à la stature de Christ. Si on est en cours en train de tourner en rond, puis on répète les mêmes affaires, les mêmes situations comme si on serait dans le désert, c'est parce qu'on oublie qu'est-ce que Dieu nous met à disposition. Alléluia. Est-ce qu'il y en a qui trouvent ça dur, la vie chrétienne? Mais certainement qu'il y a des choses difficiles, parce que c'est de vivre à contre-courant. Tu vis plus comme le monde, puis tu vis contraire à ce que le diable veut t'emmener. Tu forces, tu combats, tu luttes. C'est pas facile, c'est une vie de combat. C'est une guerre. Puis le résultat de tout ça, c'est votre âme. Allez-vous être sauvé? Allez-vous persévérer jusqu'à la fin ou vous allez faire partie de ceux qui vont relâcher puis qui vont abandonner le Seigneur pour tout perdre? Tout ce va se passer. Comment vous prenez cela? Dieu aimerait nous faire avancer dans le Seigneur, mais souvent, on trouve qu'on est sans force. On veut avancer, mais on est sans force. Ça vous arrive-tu de vous sentir que vous n'avez pas la force de faire quelque chose? C'est pas parce que Dieu n'a pas promis de nous donner la force de passer à travers. Mais ça arrive des moments qu'on ne la vit pas, sa force. Mais là, il faut s'en rappeler qu'on est là pour aller puiser dans sa force, dans son arsenal pour les chrétiens. Savez-vous que Dieu nous a donné des armes puis de la puissance pour lutter puis devenir fort dans le Seigneur? Oui, certainement, c'est là. Puis je crois qu'il y a des gens qui pensent que je fabule, parce qu'il y a des gens qui croient pas au miracle. Il y a des églises qui croient pas au miracle. Leur prédication est « Ah, mais ça, c'était dans le temps des apôtres. » La puissance de Dieu, que si tu vois, Paul, il passe, puis il a un de ses mouchoirs, il touche aux malades avec le mouchoir, puis le monde sont guéris, ou l'autre qui passe, puis son ombre touche les malades, juste son ombre guérit les malades. Il y en a qui ne croient plus à ça, la guérison miraculeuse. Pourtant, c'est écrit dans la parole de Dieu. Puis voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Il n'y a pas juste ceux qui croyaient dans ce temps-là, c'est les signes qui doivent accompagner tout le temps qu'il va y avoir des croyants, tant que le temps de la grâce n'a pas fermé, l'Esprit de Dieu est encore là, la parole de Dieu est encore là, tout est encore là pour qu'on vive ces choses-là. Amen. Il y en a peut-être qui croient en théorie. Oh oui, moi je crois théoriquement, mais est-ce que je veux le vivre? Ça, c'est une autre question. Faut vouloir cela. Faut aspirer à cela. Dieu nous dit que nous sommes déjà plus que vainqueurs. Tout est déjà payé et distribué pour que nous soyons dans la victoire. Tous ces moyens pour devenir puissants sont là. Nous avons qu'à les saisir par la foi. Tout est là. Le moteur de toute la vie chrétienne, là, frères et sœurs, c'est la foi. C'est par la foi en ce qu'on a entendu, qu'on a cru, on l'a accepté, on l'a reçu, puis on l'a confessé, on croit que Jésus-Christ est mort sur la croix il y a 2000 ans, on croit qu'on est des pécheurs, on croit qu'il est mort pour nous, on l'a accepté pour nous-mêmes, puis on a dit, je crois qu'il est mort sur la croix pour moi, je l'accepte comme mon sauveur et mon Seigneur, je m'engage à le suivre et à le servir tous les jours de ma vie. À cause de notre foi, on a saisi le salut. Mais à cause de notre foi, on peut saisir encore beaucoup plus que juste être sauvé. Les armes et la puissance de Dieu pour marcher dans la victoire tous les jours de notre vie est là, puis c'est notre foi, c'est par notre foi qu'on va la réclamer. Là, ce que ça prend des gens, des auditeurs qui écoutent avec foi. Si vous entendez un verset, laissez pas votre raisonnement trier le verset puis dire « Oh, ça, je ne veux pas le croire. » Si c'est un verset écrit dans la parole de Dieu, acceptez-le puis confessez-le. Rejetez vos faux raisonnements, parce que le but de la parole de Dieu, c'est de renverser nos faux raisonnements. L'ennemi nous en met des faux raisonnements, puis si on accepte ça, mais on rentre pas dans la profondeur de la foi qui nous fait saisir que les montagnes vont être transportées puis que les arbres vont être déracinés. C'est biblique, Jésus l'a dit. Il nous donne toutes choses dans ses promesses, c'est à nous de les prendre. Il est arrivé, Jésus, c'est le même Jésus qui est rentré dans une ville puis a guéri tous les malades qu'il y avait dans cette ville-là. Il rentre dans un autre endroit, dans l'endroit où il est né, dans ce patelin-là. Il n'a pas pu faire là gros de miracle. Parce que les gens qui recevaient la parole n'avaient pas la foi, il n'a pas pu faire gros de miracle. C'est le même Jésus, c'est la même parole, c'est la même puissance de Dieu qui est en lui. Sauf qu'il y en a qui vont vivre plein d'affaires, puis il y en a d'autres qui vivent pas grand-chose. C'est pas parce que Dieu il est moins fort ou moins bon ou moins capable d'agir dans votre vie, non. C'est à cause que nous ne recevons pas sa parole avec foi comme qu'elle devrait être reçue. C'est là, les versets sont là, il y a du monde qui pète le feu puis voit la puissance de Dieu, des miracles régulièrement, puis il y en a d'autres qui n'en verront pas de leur vie. Pas parce que Dieu est moins puissant, c'est parce que Dieu veut agir aussi, il a donné sa parole pour tous ses enfants. C'est à nous de saisir ce qui est là. Il y a trois choses qui peuvent nous faire empêcher de saisir les promesses, puis d'avancer. Il y a l'ignorance. Si on ne sait pas que c'est là un tel verset pour nous aider dans notre vie, si on ne le sait pas, mais notre ignorance fait qu'on ne le saisira pas, ce verset-là, puis on ne on confessera pas ce verset-là, puis on ne marchera pas par la foi dans ce verset-là, parce qu'on ne le sait pas. L'ignorance, c'en est un. L'incrédulité, ça en est un autre. Si on n'y croit pas pantoute que ça peut agir, ce verset-là, dans ma situation, dans ma vie, soit que je ne le sais pas, ou soit que j'y crois pas, c'est sûr que je ne verrai rien. Ça n'agira pas. Parce qu'il y a Jacques qui dit, il faut que tu croies sans douter quand tu présentes une requête à Dieu. Il faut pas que tu doutes, il faut pas que tu t'approches de Dieu puis en disant, oh, je pense que ça marche pas quand on prie. Je pense que ça donne à rien de prier, mais je vais prier parce qu'il faut que je prie. Non, on prie pas juste pour prier. On prie parce qu'on sait que Dieu veut exaucer nos prières. On veut qu'il change les choses dans notre vie. La troisième chose qui peut faire qu'on ne reçoit pas une promesse, là, qu'on ne reçoit pas la puissance et tout ça, c'est la paresse. Tu peux savoir que Dieu, sa parole est vraie, puis que le Saint-Esprit agit encore aujourd'hui, puis l'avoir expérimenté, mais journée-là, ça ne te tente pas de prier. Ça ne te tente pas d'invoquer pour la promesse. Ça ne te tente pas de t'en servir, puis ça te tente de rien faire puis de te laisser aller. C'est sûr que si on se laisse aller, on vivra pas grand-chose. Faut pas se laisser aller, frères et sœurs. Là, on est là aujourd'hui pour se rappeler ce que Dieu nous a donné comme promesse, pour qu'on puisse les saisir par la foi, puis vivre plein d'affaires d'extraordinaire avec la puissance de Dieu. Juste notre semaine de prière, là, comment est-ce que ça a fait un effet dans l'Église, puis là, il y a plein de monde qui ont vécu toutes sortes d'affaires, c'était excitant. Mais il ne faut pas que ça s'étouffe, puis ça arrête là. Dieu va en faire de même à l'année longue. Puis il va en faire encore des plus grandes que ça. On fait juste commencer à expérimenter quand on expérimente. Il faut toujours se dire ça. Il y a toujours plus que ça. Puis ça va y aller selon notre foi, selon notre appétit, notre intérêt. C'est pour ça qu'il nous dit d'aspirer au don. Aspirer. C'est comme un aspirateur. Quand tu l'allumes, allonge pas de rester d'aspirer, à moins que le sac soit plein. L'aspirateur attire, sans arrêt. Mais laisse-le marcher, il a marché toute la journée. Ben nous autres, on devrait aspirer aux dons les meilleurs. Comme un aspirateur en ayant un sac pas rempli. Parce que quand le sac est rempli, il est bouché, ça aspire plus rien. Puis peut-être qu'on a un peu trop d'affaires qui remplissent notre vie, qu'on devrait éliminer pour laisser l'aspiration prendre à journée longue d'aspirer aux choses les meilleures. Dieu nous parle plusieurs fois dans sa parole que ceux qui obéissent, qui lui obéissent, là, verront sa gloire. Dans Jean 10, 40, il a dit ça. « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » Puis là, quand il dit ça, c'est comme s'il est en train d'y répéter. « Ne t'ai-je pas dit, ça veut dire, je te l'ai déjà dit, puis je te le répète. Si tu crois, tu verras. » Il n'a pas dit, « Est-ce que Dieu, ça y tente de le faire? » Il n'a pas dit ça. Dieu est déjà prêt à faire tout ce qu'il a promis. Ses promesses sont oui, amen. C'est à nous. On veut-tu voir la gloire de Dieu? On veut-tu voir sa main à l'œuvre? On veut-tu voir des choses? À moins qu'on veuille rester, être juste un club social. On est content de se rencontrer, mais on ne rencontre jamais le Seigneur. On ne voit jamais le Seigneur. Il y en a des églises, clubs sociaux. Mais Dieu veut pas qu'on demeure juste dans l'aspect de fraternité. Il veut qu'on soit un lieu de rencontre pour rencontrer le Créateur puis de voir sa main à l'œuvre dans l'Église. Alléluia! Dieu ne veut plus que nous soyons encore au petit lait puis être encore en train de tourner en rond dans notre vie ou dans une situation. Il veut que nous sortions du désert et saisissions sa terre promise, une vie de liberté et de puissance. Ça fait partie des promesses de Dieu. On va vivre des combats, oui, mais le combat, c'est quelque chose, un combat. Mais c'est la victoire qui est encore bien plus fun. Puis il nous a promis qu'on est déjà dans la victoire. Il s'agit juste de saisir par la foi, prendre tout son arsenal, puis on va vivre des choses extraordinaires. Vous allez le voir dans la suite des autres semaines, c'est quoi tout son arsenal. On va en avoir plein de choses, c'est extraordinaire. Y a-t-il des versets qui nous parlent des armes et de la puissance dans sa parole? Bonne question. Est-ce que suis-je en train de vous faire rêver quelque chose d'extraordinaire, mais en réalité, c'est pas biblique? Parce que toute notre base de notre croyance, ça doit être fondée sur le roc. Puis le roc, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Ce qui est inébranlable, ce qui ne change point. C'est du plus solide. La Bible, là, c'est plus solide que le ciel et la terre que tu vois. Le ciel, là, puis la terre que tu vois présentement, l'univers, C'est juste temporaire, puis ça va passer un jour, ça va disparaître. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point que tout cela n'arrive. Tout ce que Jésus a annoncé, c'est du solide. J'achète. comme l'annonce en TV qu'il y avait eu. Premièrement, pour nous aider à comprendre tout ça, on va voir qu'il y a des versets qui nous parlent des âmes de la puissance de Dieu qui est dans, c'est dans sa parole, c'est biblique. Premièrement, nous sommes des êtres ressuscités par la foi en la puissance de Dieu. Vous allez comprendre en voyant tous les versets qu'on va voir. Colossiens 2:12 nous dit, on est enseveli avec lui par le baptême. Puis ça, c'est le baptême, c'est pas le baptême d'eau, le baptême spirituel, d'avoir revêtu Christ, là. On a été baptisés d'un seul esprit, formé un seul corps. Mais quand tu es né de nouveau, là, tu es baptisé en un seul esprit, vous ayant été enseveli avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscité en lui, avec lui, par la foi, la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Ça, ça veut me dire que moi, quand je suis chrétien, quand je me suis converti, il a fallu que je croie que Dieu avait ressuscité Jésus. C'est ça, on croit que Jésus a été ressuscité par son Père, parce que sinon, son sacrifice, à quoi qu'il aurait servi? Si j'ai une preuve que la résurrection existe, c'est à cause que je crois que Jésus a été ressuscité. Si je crois que Jésus a été ressuscité, je crois en la puissance de Dieu d'avoir ressuscité une personne qui est morte. Un chrétien qui ne croit pas en la résurrection, comme qu'on voit dans Romains au chapitre 15, que les chrétiens disaient qu'il n'y en avait pas de résurrection. Paul lui dit, je vous rappelle, frère, l'évangile vous avez reçu, que par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai enseigné, sinon vous avez cru en vain. Quand tu ne crois plus à la résurrection, tu n'es plus dans l'évangile qui sauve. Parce que l'évangile qui sauve, c'est un évangile qui croit en la résurrection. Pourquoi que je crois en la résurrection? Parce que je crois que Jésus-Christ, il est là, puis il nous parle, puis il s'est révélé à nous. On croit en la puissance de Dieu qui est capable de ressusciter une personne, en parlant de Jésus-Christ, puis qui vit au siècle des siècles. La Bible me le dit, mais je le crois que c'est là. Donc, je crois en la puissance de Dieu, je crois en la résurrection. Un chrétien qui ne croit pas en la puissance de Dieu, il y a un problème. C'est un handicapé spirituellement. C'est grave. C'est même, si tu ne crois pas que Dieu est capable de ressusciter une personne, Paul il dit, si vous le retenez tel que je vous l'enseigne, autrement vous aurez cru en vain. Tout le temps que tu as cru, ça ne sert pas à rien si tu ne crois plus qu'une résurrection. C'est ce que vous irez lire Romains 15. C'est à ça que tu as l'argument, que Christ, il est mort, il est enseveli, qu'il est ressuscité, il a apparu aux apôtres, il a apparu à moi, qui est le moindre. Il a apparu à plus de 500 frères à la fois. Paul y insistait pour dire qu'il est ressuscité. Donc, un croyant, doit croire en la puissance de Dieu. C'est ce que ça dit dans ce verset-là. Vous êtes aussi ressuscité avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité. Donc, on a commencé à croire à la puissance de Dieu au moment où on a commencé à croire que Jésus a été ressuscité. Puis si on le confesse, on croit à la résurrection. On croit que Jésus-Christ est ressuscité. On croit qu'il vit au siècle des siècles. On croit aussi qu'il nous ressuscitera. Puis nous vivrons au siècle des siècles avec lui. La base de la vie chrétienne, c'est de croire à la puissance de Dieu qui ressuscite les morts. Amen. Moi, je le crois. Que Dieu est capable de ressusciter les morts. Et encore plus fort que ça, Jésus a dit, ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient que tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Oui. Tout le monde va ressusciter à partir d'Adam et Ève jusqu'au dernier habitant qui est mort, qui va arriver sur la planète, là, à la fin de l'histoire terrestre. Tout le monde va ressusciter à la voix du Fils de Dieu. Puis ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, puis ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Moi, je le crois. Je crois en la puissance de Dieu qui va ressusciter tout le monde, puis qui va ramener tout le monde dans le but de les faire comparaître, puis de les juger. Puis tout dépendant son faisant le bien, là, faire le bien aux yeux de Dieu, c'est pas parce qu'on a atteint de meilleur que les autres, on dit pas parce qu'on est meilleur que les autres, c'est parce qu'on est revêtu de la justice de Jésus. C'est ça qu'est de faire le bien, c'est de confesser puis de croire en l'œuvre du Messie qui était promis, puis il est venu, puis on a cru, puis on l'a accepté, puis qu'on s'est engagé à le suivre, puis on le laisse agir dans notre vie. C'est ça qu'est de faire le bien aux yeux de Dieu. C'est de même que tu es pardonné, puis c'est de même que tu vas rentrer à cause que tu es lavé de tes péchés. Pas parce que tu es meilleur, mais il faut voir juste la nuance. Puis là, une fois qu'on croit que Dieu il est capable de ressusciter le monde, je l'ai accepté, je suis un être ressuscité maintenant. Je ne suis pas une personne comme les autres, là. Je suis un être ressuscité dans le monde des mortels. C'est pas juste après la résurrection physique qu'on est des êtres ressuscités. Présentement, nous sommes passés de la mort à la vie en ayant mis notre foi en Jésus-Christ. Nous sommes des êtres éternels, des êtres immortels spirituellement. Nous ne goûterons pas la mort. La vie éternelle nous attend. Nous allons marcher en communion avec notre Créateur, pas juste sur la terre, pour l'éternité. À l'enlèvement, il dit, et nous serons toujours avec le Seigneur après qu'on va être enlevé. On est différent du reste du monde. On n'est plus comme qu'on était avant dans nos pensées du monde, puis en étant comme tout le monde. Là, je suis un être ressuscité. Je suis différent d'avec le reste. J'ai un appel sur ma vie. Vous avez un appel sur votre vie. Dieu vous appelle à sa suite. Nous ne devons pas nous regarder avec les mêmes yeux qu'avant notre conversion. Avant, tout dépendant de chaque personne, avant qu'on se convertisse, on était tous des différents. Il y en a qui avaient une trop haute opinion d'eux-mêmes. Il y en a qui en avaient une trop basse opinion d'eux-mêmes. Il y en a qui étaient des indifférents. Peu importe notre état, on était-tu des orgueilleux ou des gens brisés et qu'on n'avait aucun intérêt dans cette vie, puis qu'on était comme des rejetés dans ce monde, puis on était abattus, écrasés, puis le monde nous marchait dessus. Peu importe comment est-ce qu'on était avant, je dois plus me regarder comme je me regardais avant. Je dois me regarder comme Dieu me voit, dans ma nouvelle position en Jésus-Christ. Je suis un être ressuscité, je suis plus comme le monde, puis j'ai pas à me comparer aux gens du monde. S'il y a une affaire, comparez-vous avec les versets de la parole de Dieu. Comment Dieu vous dit que vous êtes maintenant en Jésus-Christ? Puis là, ça va vous aider à regarder votre vie puis à marcher par la foi dans les promesses d'une manière différente que se voir comme on était avant. Ça, quand on était avant, on était « Oh, moi, je suis pas capable de rien faire. » Si on pense encore comme ça, c'est sûr qu'on changera pas dans notre pensée face au verset puis vouloir saisir. Non. Aujourd'hui, je suis un être ressuscité, puis je marche dans la foi, en la puissance de Dieu. Je crois que Dieu est capable de m'amener où ce qu'il m'appelle à être. Puis je vais faire tout ce qui est dans mes forces à faire avec ce qu'il me confie comme arme et toute sa puissance, puis son arsenal. Je vais me revêtir de tout ce qu'il me donne, me prendre ses versets, puis je vais aller de l'avant. Puis je vais croire, puis je vais m'attendre à ce que Dieu fasse quelque chose dans ma vie, puis on va voir des choses arriver. Parce que là, c'est la puissance de Dieu qui va être à l'œuvre. Si je vais avec mes yeux d'avant, il se passe à rien, puis il se passera rien non plus. Si on veut vivre dans la gloire de Dieu, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? En Christ, nous sommes maintenant une nouvelle créature, une nouvelle création. La puissance de Dieu a fait une œuvre en nous. À partir du moment qu'on s'est converti. Il y a une puissance qui agit en nous. Elle nous libère, elle nous guérit, elle nous restaure, elle nous transforme, elle nous renouvelle, elle nous équipe pour le combat. C'est déjà en train de se faire. Je sais pas si vous avez remarqué, mais on est différent depuis qu'on s'est converti. Y a-t-il quelqu'un qui a pas remarqué qu'il est différent? Y a-t-il quelqu'un qui a pas remarqué qu'il s'est passé des choses dans sa vie, de la puissance de Dieu dans sa vie? Y a-t-il quelqu'un que, moi je crois que tout enfant de Dieu, toute personne qui a été née de nouveau, Le Saint-Esprit s'est installé dans ton corps, dans ton être. Il a ressuscité ton esprit, puis il a commencé une œuvre à te renouveler dans ton intelligence, à changer tes pensées. Mais il compte que tu travailles avec, que tu coopères avec lui. Il veut t'enseigner, mais il ne faut pas que tu résistes puis contredises tout ce qu'il te dit. Puis croyez-moi, on contredit souvent ce qu'il nous dit. Moi-même, moi, j'en regarde ma propre vie, mes propres pensées, puis ça prend du temps des fois. Moi, je comprends vite, mais il faut répéter souvent. Puis je pense que je suis pas le seul comme ça. Le Saint-Esprit, il veut nous emmener dans des endroits, puis à penser de telle manière, puis à agir de telle manière, mais ça nous prend du temps à écouter. Mais il a commencé, puis c'est celui qui est le plus patient que je connais. Parce que s'il y aurait ma patience, ça fait longtemps que je me serais balancé moi-même, que je me serais acheté dehors. Mais Dieu, dans sa grandeur, dans sa patience infinie, dans son amour, dans sa grâce, il est patient, puis il a commencé un œuvre, puis il a retroussé ses manches, il a dit, « Inquiète-toi pas, je suis là, puis je vais agir dans ta vie, puis même quand tu y penses pas, je suis encore là. » Il peut faire au-delà de ce que nous demandons et pensons. Il est encore en contrôle de beaucoup de choses qu'on a de la misère. Ce don de Dieu, là, qu'on a reçu à la conversion, c'est la puissance du Saint-Esprit. C'est pas nécessairement la puissance du Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit tout-puissant qui rentre en nous. C'est pas juste sa puissance qui nous donne. C'est le Saint-Esprit qui nous donne, mais cet être-là, il est tout-puissant parce qu'il est Dieu. Nous avons le tout-puissant en nous, puis il peut toute chose. Il n'y a pas de limite dans ce qu'il peut faire. Il l'a prouvé, Jésus, quand il était sur la terre, puis il a fait des miracles. Il y en a qui avaient la main sèche, je ne sais pas si vous avez déjà imaginé, mais nous autres, on dirait qu'il n'y a rien à faire. Il a la main complètement, même plus de viande dans sa main, là. Il est rendu sec. Quand il l'a guéri, tout est devenu sain comme l'autre. Y a-t-il une limite, Dieu, à faire des miracles? Il n'y a pas de limite. Au-delà de tout ce qu'on peut penser. Il maintient l'univers en existence, il est capable de s'occuper d'une main qui est sec. Nous avons reçu le Saint-Esprit Tout-Puissant. Dans 2 Timothée 1, 6, ça nous dit, Paul est en train de parler à Timothée, et il dit, c'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu. T'as reçu le Saint-Esprit Tout-Puissant en toi, là. Je t'exhorte à ranimer. Parce que lui, ça a de l'air qu'il a vécu une période qu'il vivait plus grand-chose, là. Ça nous est arrivé à nous de vivre des périodes qu'on vit pas grand-chose? Oui, fait qu'on jugera pas Timothée. On va dire, il est pas, je suis pareil comme moi, ça m'est arrivé moi ici. Il dit, je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains, parce que c'est pas un esprit de timidité que Dieu t'a donné, que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Mais c'est une inspiration du Saint-Esprit. Oui, oui, puis c'est ça que Dieu veut nous parler ce matin. Puis ça fait partie de son plan. La puissance de Dieu est dans le Saint-Esprit, puis on l'a reçu à notre conversion. Il est en nous quand tu t'es converti, puis il va demeurer éternellement avec vous. Mais il faut pas l'éteindre, puis il faut pas l'attrister, puis il faut pas contester, puis s'opposer. Il y a plein d'affaires qu'on peut faire qui est négatif face à lui, mais on garde la foi dans ce qui veut nous conduire, puis on va vivre des choses extraordinaires. Un esprit de force, là, quand il dit un esprit de force, ça veut dire puissant, là, pour que chaque chrétien qui réalise l'esprit qu'il nous a donné, c'est un esprit de force qui est là. Il ne faut pas se laisser décourager, intimider par ce qu'il y a autour de nous. Il ne faut pas regarder avec nos yeux humains. Il faut regarder avec les yeux de la Bible. Ce que je vous dis là, c'est qu'est-ce que la Bible a dit? Voyez-vous comme ça. Paul l'a confirmé en leur disant à Timothée, puis c'est le même esprit-là qu'il nous a donné. On est encore des, on fait partie du nous 2000 ans plus tard. Un esprit puissant qui agit en nous, il veut agir davantage, puis il veut nous rendre puissants. Puis Timothée, il avait négligé cela. Il était découragé, il avait moins de choses. Mais il y avait des frères animés de l'amour de Dieu qui parlaient à Timothée pour le réexciter à revenir, à se tremper dans cette pensée-là. Voyez-vous, quand on oublie, là, comme je disais au début de ce message-là, le diable, lui, veut nous voler les promesses. Comment est-ce qu'il nous vole ça? Il fait juste nous les faire oublier. Il nous fait penser à tellement de choses qui autour, des choses matérielles, des choses humaines, qu'on oublie tout ce qu'on vient d'apprendre. Puis des fois, on fait juste sortir de l'église, puis le lendemain, on ne se souvient plus de la prêche qu'on a eue. Même l'après-midi, des fois, c'est pas drôle. J'espère qu'on va en retenir des bouts, parce qu'il faut continuer à grandir. Puis un petit bout d'une heure, c'est pas dur à retenir. Oui, c'est long. Mais on est très limité. C'est pour ça que le dépôt qui est émis par le Saint-Esprit, qui parle dans Timothée, dans d'autres versets, c'est le Saint-Esprit et tout son dépôt, parce qu'il veut déposer sa connaissance, sa puissance, ses dons. Il y a plein d'affaires, j'ai fait une série là-dessus, et sur Internet, ceux qui sont intéressés, sur le dépôt du Saint-Esprit, tout ce qui a été déposé, puis c'est basé sur les enseignements de Paul à Timothée, j'ai prêché ça ici au début. C'est là pour nous, puis Dieu veut nous faire vivre plein de choses extraordinaires. Je vais vous donner quelques versets qui nous parlent des armes pour nous. Okay? Des types d'armement. Les principaux buts de ces armes-là. Premièrement, armes de lumière. Afin qu'on brille comme Jésus. Romains 13, 11. Tout ça, là, c'est Paul ou Pierre qui amène des versets parce qu'il voulait nous enseigner une vérité dans ce verset-là. Faut comprendre avec les yeux spirituels. Parce que, arme de lumière, où ça? Depuis que je suis chrétien, j'ai pas vu rien de lumineux autour de moi, là, à moins qu'on serait transfiguré. Justement, c'est quand tu commences à voir avec les yeux du monde invisible, par la foi, tu crois à ce qui est écrit dans la parole, puis là, tu commences à l'appliquer dans ton esprit pour pouvoir penser comme la parole pense. C'est là qu'on va commencer à saisir qu'est-ce qui est autour de nous, au-delà du matériel. La matière est là, le meuble est là, le microphone est là, la bouteille d'eau est là. Ça, c'est qu'est-ce que mes yeux humains voient du monde matériel. Mais mes yeux spirituels peuvent percevoir autre chose qui est au-delà de ma vision humaine, puis de commencer à voir le monde invisible. Puis là, tu te fermes les yeux, puis là, tu vois Dieu sur son trône, puis avec tout comment ça a été décrit, les êtres vivants, les 24 vieillards, puis là, la multitude des milliards d'anges, puis c'est tous des versets qu'il nous a donnés, mais on se fait une image de ça, parce qu'on prend les versets, puis on rentre à réfléchir sur ce qui est écrit, puis là, on commence à voir ce qu'il y a dans l'invisible, ce qu'on ne voit pas de nos yeux humains, mais ce qu'on voit avec nos yeux spirituels. Puis on est des hommes spirituels qui est rentré dans la dimension spirituelle, puis il faut être capable de s'imaginer le monde spirituel tel que ça nous a été révélé par ceux qui les ont vus. Paul, quand il parle de cela, il voit ça comme des réalités, puis on va les comprendre dans toute la suite de tous ces messages-là. Mais là, je fais juste donner comme des gros titres. Armes de lumière. Paul, dans Romains 13, 11, il nous dit, « Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. » Il dit, « La nuit est avancée, le jour approche. » Ça, c'est le jour du retour de Jésus-Christ. On est bien plus proche qu'eux autres dans ce temps-là. « Dépouillons-nous des œuvres des ténèbres et revêtons-nous des armes de la lumière. » Oups, il y a des armes de lumière. Ça veut dire que si j'entends jamais de message qui m'enseigne ce que la Bible dit là-dessus, Je passe à côté des armes de lumière, puis il me dit, faut que je m'en revête. C'est une réalité. Il y a des armes de lumière qui sont là. Mais il faut que je réalise c'est quoi qui sont les armes de lumière pour que je puisse me dépouiller des œuvres des ténèbres et commencer à me revêtir de ce qui appartient à Dieu, puis pouvoir marcher sur la terre avec, en étant revêtu des armes de la lumière. Puis ça, c'est grâce à ces armes de lumière que nous allons pouvoir briller comme Jésus brillait, parce que Jésus en était équipé. Pour ça que Jésus dit « Je suis la lumière du monde ». Certaines personnes le reconnaissaient en le regardant. « Ah, oh, regarde ça, il y a ça, ça, tu vois que c'est pas pareil comme les autres ». Puis là, si nous autres, à la première, bien vite, là, on va dire, « Hey, check ça, il a guéri une personne. Check ça, il a ressuscité une personne. Check ça, il a parlé prophétiquement, il a révélé le cœur de l'autre. Check ça, il y a une parole d'inspiration qui bouche la, ferme la bouche à tout le monde. » Là, on peut voir, commencer à voir la manifestation de la puissance de Dieu à travers cette enveloppe corporelle qui s'appelait Jésus de Nazareth. Par nos yeux spirituels, on peut voir que la puissance de Dieu est à l'œuvre. Puis là, il y a des signes qui nous le montre, des prodiges, des miracles qui s'accomplissaient par sa parole, par son imposition des mains, par son crachat, n'importe quoi. Lui était capable, par la puissance de Dieu, de faire des miracles, des signes, des prodiges, puis donner des révélations que personne n'a eues. C'est grâce à ce qu'il nous a manifesté par un court temps de 3 ans qu'on comprend. Puis tout ce que les apôtres ont vu là-dedans, puis qui ont été révélés par le Saint-Esprit, ça nous est écrit aujourd'hui, puis on sert de ça pour entrer dans la pensée d'un homme spirituel qui voit le monde invisible, puis commencer à goûter des choses du monde invisible. C'est là pour nous. Là, il est dit, il est le temps de se réveiller parce que le jour avance. Puis il faut se dévêtir puis se revêtir. Il faut enlever des affaires puis il faut en rajouter. Mais si je le sais pas à cause de mon ignorance ou ma paresse ou mon incrédulité, ça peut m'empêcher d'entrer dans ce que Dieu a mis là à notre disposition, que les apôtres utilisaient, que les apôtres le savaient puis ils le vivaient puis ils l'enseignaient. Je suis pas le seul verset, je vais vous en donner d'autres. Des armes de justice. Afin de donner le bon exemple. 2 Corinthiens 6, 4, l'apôtre Paul est en train de l'expliquer. Il dit, « Mais nous, nous nous rendons à tous égards recommandables comme des serviteurs de Dieu par beaucoup de patience, des tribulations, des calamités, des détresses, blablabla. » Là, il nomme plein de choses par quoi qu'il se rendait commandable. Il se rendait recommandable. Puis au verset 7, il nous dit, « Par la parole de la vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice. » Quelles sont les armes offensives et défensives de la justice? Les armes défensives, c'est des armes qui vont t'aider à te défendre. Puis les armes offensives, c'est des armes qui vont t'aider à attaquer. Quand tu prends autorité dans le nom de Jésus en utilisant un verset, comme Jésus a fait avec le diable, « Arrière de moi, Satan, il est écrit. » Tu as, dans un cas, il a dit, « Tu adoreras le Seigneur ton Dieu, tu le serviras lui seul. » Il venait d'utiliser une arme offensive pour frapper le diable entre les deux oreilles. « Tiens, il est écrit ça, parle. » C'est une arme offensive. Mais il y a des armes défensives pour nous protéger. On va tout éplucher ça dans la suite des autres messages. Je vais juste vous montrer que ça existe, puisqu'il en parle. Il s'agit de le savoir. C'est là qu'est le point. Donc, un autre passage qui nous parle de ça, des armes puissantes et spirituelles pour renverser des forteresses de la rébellion. 2 Corinthiens 10, 3. Il dit, « Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. » Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. C'est pas des armes charnelles de notre corps humain. Des armes puissantes que Paul avait découvert révélées par le Saint-Esprit. Puis ils appellent ça des armes, c'est des armes spirituelles, puis puissantes, qui sont là, qu'on peut utiliser pour voir des changements dans notre vie puis dans la vie des autres. Un autre passage qui nous parle des armes de Dieu, qu'on doit se revêtir afin de combattre l'ennemi puis de tenir ferme dans la foi, dans Éphésiens 6, 11. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Ils sont là, les armes de Dieu. Afin, à quoi que ça sert, il nous le dit, là, de tenir ferme contre les ruses du diable. Tu as besoin des armes de Dieu pour tenir ferme. Pour te défendre puis pour attaquer. Parce qu'on n'a pas à lutter contre la chair et le sang, mais on a à lutter contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Comment qu'un chrétien peut arriver à devenir, à être à la stature de Christ? Faut qu'ils apprennent c'est quoi les armes, puis s'en servir pour résister quand ça va mal, puis après ça, s'en servir pour rester ferme après avoir tout surmonté. Puis si on les oublie ou on ne sait pas que c'est là, on l'a pas la victoire, on est toujours dans défaite, puis on est toujours trimballé, puis on est comme du sel sans saveur. On est comme des lumières éteintes. Parce que la puissance de Dieu se manifeste pas. Paul, lui, il savait que ça existait, puis il nous exhorte à prendre toutes les armes de Dieu. Faut aller chercher, frères et sœurs, c'est pas des fers, puis il faut les utiliser. Là, aujourd'hui, je vous demanderai pas quand est-ce que vous les avez utilisés. Je les ai pas encore expliqués. Mais quand je vais vous les expliquer, je suis sûr que des moments que vous les avez utilisés, sans réellement réfléchir, que c'est une arme de Dieu. Juste l'exemple que j'ai donné tantôt, de prendre autorité dans le nom de Jésus, puis de résister au diable avec un verset. C'est une arme. Mais il faut, je l'ai peut-être pas dans l'idée que je suis en train d'utiliser une arme, mais au moins je l'ai pris pareil, l'arme, puis j'ai frappé. Puis l'arme, c'était la parole de Dieu qui est l'épée de l'esprit. Ça, là, je frappe tard. C'est une arme offensive. Mais quand on va passer à travers de toute l'étude, c'est pas aujourd'hui, on va rentrer dans le monde spirituel, puis les armes de Dieu qui sont là à notre disposition, puis on doit s'en servir tous les jours. Jésus s'en servait, les apôtres avec. Bon, vous parlez de quelques versets qui parlent de sa puissance qui agit en nous. Le royaume de Dieu consiste en puissance. 1 Corinthiens 4, 19, ça nous dit, Paul qui est en train de parler aux Corinthiens, « Mais j'irai chez vous, bientôt chez vous, si c'est la volonté de Dieu, et je connaîtrai, non les paroles, mais la puissance de ceux qui se sont enflés. Car le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. » C'est que dans l'église de Corinthe, il y avait des gens qui s'opposaient à ce que Paul y allait, puis ils avaient essayé de prendre le contrôle de l'église, puis ils enseignaient un autre évangile, faire recevoir un autre esprit, puis ils prêchaient un autre Jésus, puis là, ils se disaient des super apôtres. Ça ne parle pas des apôtres, des 12 apôtres, là, ça parle des gens de Corinthe. Puis là, Paul, il dit, « Mec, j'y aille, là, je vais le voir, c'est quoi la puissance de ces gens-là qui essayent de s'opposer à l'évangile. » Il ne voulait pas que Paul y aille. Puis Paul, il dit, « Je vais y aller, puis on va voir quelle est la puissance de ceux qui parlent. » Parce que le royaume de Dieu ne consiste pas juste en paroles. Il y a de la puissance. Puis il faut réaliser que quand tu prends une parole puis tu dis quelque chose, faut que tu crois que ce que tu es en train de dire, ça l'arrive, puis tu vas le voir s'accomplir. Mais quand tu le vois s'accomplir, c'est puissant. C'est pas juste des mots. Notre foi est bâtie sur une démonstration d'esprit et de puissance. 1 Corinthiens 2, 4. Il dit, ma parole puis ma prédication repose pas juste sur des discours persuasifs de la sagesse, mais une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Notre foi doit être basée sur la puissance de Dieu. Nous croyons déjà que Dieu a ressuscité Jésus-Christ. Nous croyons qu'il nous a ressuscité. Nous croyons que nous avons reçu le Saint-Esprit. Nous croyons que nous sommes nés de nouveau. Nous croyons plein de choses. Nous sommes déjà en train de croire au Dieu Tout-Puissant. Mais le royaume de Dieu, c'est pas juste des théories, c'est de la puissance. Nous croyons à la puissance. C'est pas juste dans le temps des apôtres. On le vit encore aujourd'hui. On vit des choses. Puis on peut en vivre encore beaucoup plus. Paul, il combattait puissamment avec cette force qui est en lui. Colossiens 1, 29. Il dit, c'est à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Il était alimenté, puis il savait qu'il était alimenté par une puissance, puis il dit, je m'en sers. Mais il faut arriver à la connaissance de ce qui est à notre disposition, puis on va s'en servir. Amen.
Amen.
Par la puissance qui agit en nous, il peut faire au-delà de ce qu'on peut demander ou penser. Ça, c'est Éphésiens 3, 20. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, il peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons et pensons. Donc, il est en train de dire aux chrétiens, vous avez la puissance de Dieu en vous. On l'a vu tout à l'heure dans le verset. Vous avez reçu le Saint-Esprit, mais c'est l'Esprit du Tout-Puissant qui est là. Cette puissance-là est là, puis elle veut agir à travers vous. Si vous y croyez, puis vous le voulez, vous allez voir sa main à l'œuvre. Pouvons-nous commencer à comprendre que Dieu veut qu'on réalise ce qu'il nous offre dans sa parole et ce qu'on peut saisir par la foi? On s'en rend-tu compte que c'est là? Je vais vous donner quelques petits versets pour finir ça. Psaume 68, 28. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Oh, Dieu t'ordonne à ce que tu sois puissant. Comment je vais être puissant, Seigneur, moi? Mon esprit, ma parole, mes armes. Prends ce que j'ai à te donner. Psaume 108, 35, il dit, « De ton sanctuaire, ô Dieu, tu es redoutable. Le Dieu d'Israël donne à son peuple la force et la puissance. » C'est pour nous, ça. C'est dans le Saint-Esprit. Tout est déjà accompli, tout est déjà donné. Colossiens 1, 11. « Fortifié à tout égard par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours, avec joie, persévérant et patient. » Il veut qu'on sente fortifié par son esprit. Il veut qu'on la vive, qu'on la ressente, sa présence, sa puissance en nous. Puis il veut que ça nous fortifie. Puis là, on va être persévérant avec joie. Puis patient dans ce qu'on a à vivre. Parce qu'on le sait qu'on l'a, cette puissance-là. C'est ça le but. Il faut le réaliser que c'est là. Puis il faut la laisser agir. Puis vous allez vivre une vie différente. Dieu veut que nous soyons comme le Maître, Jésus. Dans Jean 14, 12, il dit, « en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. » Puis en fera de plus grandes. Parce que je m'en vais au Père, et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Jésus n'a pas fini de travailler. Dans ce verset-là, il est en train de nous dire que tout ce que vous allez demander en mon nom, je le ferai. Ça veut dire qu'il se propose encore d'agir. Dans les Actes, ça nous dit, « Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Et le Seigneur confirmait par des signes, des prodiges, des miracles, la parole qui était annoncée. » Le Seigneur continue d'agir parce qu'il voit qu'on a la foi, on croit, on confesse, on se revêt, on veut vivre ces choses-là. Il va nous en mettre, puis lui, il dit que ça glorifie le Père. Le Père, il est glorifié quand Jésus est cru et que Jésus continue d'agir à travers ses disciples. Le Père est glorifié, le Père est fier. Dieu le Père nous regarde aller quand on marche par la foi et qu'on vit des miracles. Nous autres, ça nous excite. Ah, on est tout heureux de voir que les esprits nous sont soumis comme les apôtres. Mais il dit, réjouissez-vous pas de ça. Il réjouissez-vous que votre nom est inscrit dans le livre de vie. Ça crée une joie en nous autres, veut pas. Mais Dieu aussi, il a de la joie quand il voit que les croyants croient à sa parole, puis que les croyants veulent vivre sa puissance. Dieu, il est fier de ses enfants. Tel Père, tel Fils. Amen. Prions. Père Seigneur, c'est dans le nom de ton Fils Jésus que on s'approche devant toi. Nous croyons à ta parole, Seigneur. Nous croyons à tout ce qui est écrit là, puis c'est encore valable pour aujourd'hui. La porte de la grâce n'est pas encore fermée. Je te demande, Seigneur, augmente notre foi. Donne-nous de nourrir notre foi afin qu'elle augmente. Tu nous dis que la foi vient de ce qu'on entend, puis ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Puis plus qu'on se nourrit des paroles de foi, mais plus que notre foi va grandir. Puis je te demande de mettre ta main, Seigneur, pour que cette Église, chaque croyant qui est ici, puisse rentrer à saisir, Seigneur, les armes et la puissance de Dieu à notre disposition, puis pouvoir expérimenter cette puissance pour que nous soyons puissamment fortifiés par ton esprit, qu'on marche dans la joie, qu'on soit persévérant et patient dans notre vie chrétienne, parce que tu nous fortifies. Puis je te remercie de ce que tu vas faire au milieu de nous, dans le nom de ton Fils Jésus. Amen.